Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez Sophie Durocher.
C'est vraiment littéralement une bombe qui a explosé en France la semaine dernière. Il y a exactement une semaine, c'est le rapport de la commission Sauvé sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique. On apprend qu'il y a eu, depuis les années 50, 216 000 victimes mineures de différents membres de l'Église catholique. À 80 % les victimes étaient des garçons et dans la plupart des cas, vraiment des très, très jeunes garçons. J'avais envie de parler de ce phénomène-là, de cette hypocrisie de l'Église catholique avec Frédéric Martel. Je vous explique qu'il est auteur d'un livre qui a fait énormément de bruit, pas juste en France, mais partout à travers le monde. Son livre s'intitulait « Sodoma » et c'était une enquête au cœur du Vatican. Et donc, il est très bien placé pour pouvoir nous parler de ce qui s'est passé au sein de l'Église catholique. Je le rejoins tout de suite en France. Frédéric Martel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous êtes sociologue, vous êtes journaliste. Quand vous avez pris connaissance des résultats de la commission Sauvé, quand vous avez vu ces chiffres-là, 216 000 victimes de l'Église catholique, comment vous avez réagi, M. Martel?
Écoutez, on a une double réaction. La première réaction, c'est la stupéfaction. La stupéfaction par rapport aux chiffres, qui sont phénoménaux. Hein. Vous l'avez dit, plus de 300 000 enfants, pour la plupart, en tout cas jeunes, qui ont été, sous des formes diverses, harcelés, agressés, parfois violés par des prêtres ou des personnes en charge des institutions catholiques, des aumôneries, le catéchisme, etc. Et en même temps, particulier pour quelqu'un qui, comme moi, a travaillé sur ces questions depuis 5-6 ans, une forme de... J'oserais presque dire, on s'attendait à ça. Peut-être pas dans l'ampleur, mais ça ne nous surprend pas pour de très multiples raisons.
D'accord. Alors bon, on va pouvoir en parler parce que ce que vous démontriez dans votre livre, c'est une hypocrisie de l'Église catholique, une hypocrisie du Vatican, c'est-à-dire que des gens qui en public disent sont vraiment très homophobes, en privé sont très homosexuels, et donc je veux pas évidemment faire de lien entre l'homosexualité et la pédophilie, mais il reste que il y a au cœur de l'Église catholique une hypocrisie, c'est-à-dire qu'on fait la morale aux gens en leur disant « il faut surtout pas avoir ce comportement-là », mais en privé, on se permet tout, en fait.
Oui, plus largement, ce que cette étude, qui, je le rappelle, a été voulue par l'Église, donc elle est extrêmement sérieuse, et surtout, elle ne peut pas être contestée par l'Église, puisque c'est la conférence des évêques de France qui a mis en place cette commission Sauvé, confiée à ce qui est l'un des plus hauts magistrats français du droit public. Donc, commission qui est irréfutable, les spécialistes n'étaient pas particulièrement hostiles à l'Église, hein. Beaucoup d'entre eux sont des spécialistes du catholicisme, mais beaucoup d'entre eux sont catholiques. Donc, la commission, son travail ne fait l'objet d'aucune critique. En revanche, il est vrai que ça met au grand jour, au fond, non pas seulement une hypocrisie, mais un système général, je dirais, de mensonges. De mensonges avec la vérité. L'Église ment depuis longtemps, mais en particulier, aujourd'hui, sur la sexualité des prêtres, sur la chasteté, sur le célibat. Mais elle ment aussi sur la politique, avec énormément de politisation, souvent d'extrême droite, qui est tue, qui est cachée. Elle ment sur l'argent avec des systèmes de financement très opaques au Vatican, mais également en Espagne, au Mexique, au Chili, etc. Et enfin, ce qui se passe en France, je dirais presque, n'est que une nouvelle vague d'affaires qui connaissent une ampleur similaire en Irlande, aux États-Unis, mais également au Chili, il y a 3-4 ans, au Mexique, en Colombie, à Cuba. On a eu ce problème en Irlande, je l'ai dit. On a eu ce problème en Autriche, on l'a eu en Belgique, on l'a pour une part aussi au Royaume-Uni. Donc, au fond, c'est ce qu'il faut comprendre, que ce ne sont pas des cas individuels.
Voilà.
Bien sûr, les coupables, ce sont ceux qui commettent ces actes, mais au-delà, c'est un système qui est fautif parce qu'il repose sur de l'hypocrisie et du mensonge.
Voilà, mais ce que vous nous décrivez, on comprend fort bien que le système a protégé ces individus-là. On se demande même si le système ne les a pas encouragés, parce que quand on se rend compte qu'il y a un curé dans la paroisse X qui abuse d'enfants, qui viole des enfants, au lieu de le punir, on le prend et on l'emmène dans une autre paroisse, sachant fort bien que là, il va agresser d'autres enfants. Donc, la question que je vous pose, M. Martel, est assez simple. S'il y a autant de pédophiles, s'il y a autant d'agresseurs et de prédateurs au sein de l'Église catholique, comment se fait-il qu'il y a une partie de la population qui continue à accorder sa confiance à cet organisme-là, qui protège systématiquement des agresseurs?
Alors d'abord, je relativiserai un tout petit peu ce que vous dites. D'abord, je ne crois pas profondément, en tout cas en tant que structure, que l'Église, sous quelque forme que ce soit, encourage la pédophilie. Je crois qu'elle la combat, depuis d'ailleurs longtemps. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle a institué un système, une culture du secret, qui vise d'abord à protéger le secret de la sexualité des prêtres, très souvent d'ailleurs avec des femmes adultes, des hommes adultes, donc qui n'est en soi pas critiquable d'un point de vue de la loi. Donc ces prêtres qui ont une sexualité, je dirais, parfois normale, ils sont protégés par le secret de l'Église, ce qui fait que des pédophiles qui, eux, vont avoir un comportement tout à fait illégal, sont également protégés par ce système, bien que ce système n'avait pas pour objectif premier de protéger ces pédophiles. Donc je pense qu'il faut, il y a bien sûr des exceptions, il y a évidemment des pédophiles systémiques, mais je crois que l'Église en tant qu'institution est plutôt victime de cette institution du secret sur le célibat, sur aussi tout simplement sur la confession, qui est aussi un des lieux Moi, dans mon étude, dans ce livre Sodoma, on m'a expliqué que beaucoup des personnes qui découvraient leur homosexualité, qui en faisaient état lorsqu'ils étaient jeunes au prêtre, se faisaient ensuite draguer par le prêtre. Donc, parfois même des personnes adultes, d'ailleurs. Donc, il n'y avait pas en soi, c'était pas illégal d'un point de vue du droit. Après tout, un prêtre peut très bien, la loi n'a rien contre le fait qu'il ait une sexualité si elle est faite avec des gens adultes, et s'il n'y a pas d'autorité entre lui et la personne avec qui il a cette relation. Évidemment, il y a un doute sur la confession, puisque la confession, c'est quand même une autorité sur quelqu'un. Mais donc, on voit bien le système. J'ajoute aussi une dernière chose, c'est que par rapport à ce que vous dites, je crois qu'on ne peut pas... c'est pas parce qu'il y a 300 000 victimes qu'il y a 300 000 pédophiles. Je crois qu'il y a d'abord des multi-récidivistes qui ont pu... durant leur carrière, peut-être agresser ou violenter plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Donc c'est un nombre bien plus bas de prêtres ou concernés. Et d'autre part, je pense aussi qu'il faut, tous les actes, aussi critiquables soient-ils, ne peuvent pas être mis sur le même plan. C'est une chose que de draguer, de coucher lorsqu'on est un prêtre avec un jeune adulte qui a plus de 18 ans, ça en est une autre, que de violer un mineur.
Donc, absolument.
C'est pas tout à fait la même chose.
Non,
c'est même pas du tout la même chose.
Je comprends. Mais on revient toujours à la question centrale, qui est la sexualité des prêtres. Est-ce que vous pensez, sincèrement, après toute cette enquête que vous avez menée, est-ce que vous pensez que si demain matin, l'Église catholique disait on n'oblige plus les prêtres au célibat. Ils peuvent vivre au grand jour leur sexualité, que ce soit épouser une femme, que ce soit épouser un homme, ou que ce soit simplement avoir des relations hors mariage, avoir une sexualité épanouie. Est-ce qu'on réglerait un certain nombre de problèmes au sein de l'Église catholique, selon vous?
Alors, il faut bien voir que ce dont on parle, hein, la commission Sauvé, concerne des affaires qui datent, en gros, depuis la guerre. Donc, c'est sur une très longue période. Donc, si vous voulez, le problème, déjà, c'est que quand même aujourd'hui, tout cesserait, s'il n'y avait plus aucun acte, vous aurez encore des affaires de pédophilie pendant les 50 ans qui viennent. Ce qui est normal, puisqu'il y a du recul par rapport à des actes commis lorsque les gens étaient enfants, et souvent ils se mettent à parler que quand ils sont beaucoup plus âgés. Donc c'est ça le problème de l'Église, c'est que l'affaire n'est pas finie, quand bien même les règles seraient différentes. Deuxièmement, moi je suis persuadé, et d'ailleurs malgré tout l'islam, le protestantisme, le judaïsme nous montrent, il y a des affaires aussi, mais il n'y a pas des affaires à ce point systémiques, et pas en plus des affaires qui concernent très spécifiquement, massivement, les garçons dans les autres religions. Donc il y a réellement un problème spécifique à l'Église catholique, et là je crois que, de toute façon, ce n'est pas un problème idéologique, ce n'est pas un problème même lié en soi à la pédophilie, c'est d'abord un problème démographique. Vous avez aujourd'hui, en France par exemple, 800 prêtres qui meurent chaque année, et vous en avez en gros 50, 60 qui sont ordonnés. Ça veut dire que dans 10 ans, il n'y a plus de prêtres en France. Donc le problème, il est simple, il est démographique. L'Église est obligée d'autoriser les prêtres à se marier parce que sinon ils ne veulent plus devenir prêtres. Elle doit consacrer les femmes et leur permettre d'être elles aussi prêtres. Et de fait, peu à peu, il y aura aussi le besoin d'autoriser les prêtres à être homosexuels. Vous savez, les choses sont très simples. Le débat, il se calcule d'une manière tout à fait simple. Vous avez le choix entre imposer le célibat et la chasteté, et avoir des prêtres qui caressent des enfants, ou autoriser les prêtres à être gays avec un adulte consentant ou avec une femme hétérosexuelle avec des enfants. Moi, mon choix, il est très vite fait. Je préfère un prêtre gay ouvertement ou un prêtre hétérosexuel marié qu'un prêtre qui caresse des enfants.
Ben écoutez, c'est extrêmement bien résumé. Frédéric Martel, j'encourage tout le monde à lire votre livre « Sodoma, enquête au cœur du Vatican », un livre justement qui lève le voile sur cette hypocrisie et ce mensonge. Merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous à cette réalité vraiment triste, et j'aime vraiment beaucoup votre conclusion. Merci beaucoup, Monsieur Martel.
Merci.
Frédéric Martel, donc sociologue, journaliste, qui réfléchissait avec nous à cette histoire absolument sordide. Donc plus de 216 000 enfants qui ont été victimes de prêtres catholiques en France. J'ai très hâte de voir les résultats d'une enquête semblable ici au Québec. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Dominique Plamondon à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence Lamoureux à la recherche, et on se retrouve bien sûr demain.